I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de sexualité et de société. Dans cet épisode, on va évoquer le blanchiment des zones intimes. Avant d'échanger avec Isabelle Gallet, dermatologue, vice-présidente du syndicat national de dermatologie-vénérologie, je vais d'abord poser un cadre à propos de cette recherche du blanchiment, de l'éclaircissement de la peau humaine. Ces pratiques remontent au moins à l'Antiquité occidentale. La blancheur diaphane de la peau est perçue comme un signe d'aristocratie. En Europe, jusqu'au XXe siècle, et la mode du bronzage, la peau hâlée est considérée négativement. Elle renvoie aux personnes qui sont dehors, qui travaillent sous le soleil. Cette recherche de la blancheur va gagner aussi les Amériques, les Afriques, les Caraïbes, le sous-continent indien. Sur cette question de l'éclaircissement de la peau, qui fait intervenir faits culturels, identitaires, normes esthétiques mondialisées, domination de l'Occident versus les Suds, racisme, je vous renvoie à des ouvrages sur la peau de Jean Baudrillard, Céline Emeriaux, Gilles Butch, Catherine Lanoé, ou encore le documentaire « Blanchir, une affaire pas très claire » de Olivier Hénogo. Enfin, cette recherche de l'éclaircissement de la peau ne touche pas seulement les parties visibles. Alors que la mélanine, le pigment naturel de la peau, est plus concentré sur les parties génitales et les mamelons des personnes, certains, certaines, recherchent dans ces zones une blancheur, une uniformité du teint. C'est par ailleurs une norme dans la pornographie qui, rappelons-le, n'est pas la réalité. Dans la pornographie, les zones génitales des jeunes actrices sont quasi toujours, toujours lisses, sans poils, de couleur uniforme. Ce qui n'est donc pas la réalité. Ce cadre étant posé, j'ai appelé Isabelle Gallet, dermatologue à Dijon, vice-présidente du syndicat national de dermatologie. Elle va évoquer pour nous les produits, les techniques, les risques encourus par le blanchiment des zones intimes. Première question à Isabelle Gallet, le blanchiment des parties intimes est-il une demande répandue ou marginale ?
C'est une demande qui est marginale actuellement. Cependant, il y a de plus en plus de personnes qui font, sans vraiment faire la demande, qui posent la question. Voilà, j'ai des hyperpigmentations, des zones intimes au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de l'aine ou au niveau de la face interne des cuisses. Donc, c'est quelque chose, ça, que nous, dermatologues, nous connaissons depuis longtemps dans certaines pathologies. Mais actuellement, il y a une demande pour l'esthétique parce que actuellement, c'est un peu une course à la blancheur, notamment pour les personnes qui ont un phototype foncé, donc au-delà du phototype 4, qui vont être plus à même de faire des hyperpigmentations post-inflammatoires, plus à même de faire des taches solaires. C'est vrai que la course à la blancheur, c'est quelque chose d'actuel. Pour les zones intimes, c'est aussi finalement une demande parce que on a envie d'avoir une peau. Je pense que ces patients ont envie d'avoir une peau uniforme, dans l'esprit des gens. Je pense qu'il doit y avoir de ça.
On va parler des produits qui sont utilisés. Oui. Ou voir des techniques qui sont utilisées pour blanchir ces parties intimes. Qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui ?
Alors, les techniques de laser sont tout à fait envisageables aussi. Tout ce qui a trait au problème d'hyperpigmentation ne doit pas impliquer des techniques agressives. Tout ce qui est trop agressif et qui va générer de l'inflammation va générer en plus de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Le mélanocyte, qui est la cellule qui fabrique le pigment, elle réagit de cette façon-là. C'est-à-dire que on agresse et on réagit. Donc, il faut des techniques soft. Et donc, si on fait des peelings ou si on fait des lasers, il faut avant tout ne pas agresser. C'est très difficile à conduire, je pense, pour un patient, soi-même, chez soi. D'une part, parce qu'il y a la toxicité des molécules qu'ils peuvent trouver sur Internet. Les molécules vraiment actives, comme l'hydroquinone, comme les corticoïdes et même les dérivés mercuriels, ne peuvent pas du tout être utilisées de façon personnelle par le patient en achetant sur Internet et en faisant ses traitements soi-même.
À propos d'ailleurs de l'hydroquinone, vous allez confirmer ou infirmer, elle est aujourd'hui interdite à la vente.
L'hydroquinone est interdite à la vente, tout à fait. L'hydroquinone a un potentiel cancérigène, l'hydroquinone a un potentiel, on va dire, toxique, avec la possibilité de générer, si on ne sait pas l'utiliser, ça peut générer au contraire des hyperpigmentations d'un autre type qu'on appelle l'ochronose, hein, des bouts d'un autre pigment. Ça peut générer des irrégularités, surtout des genres d'épigmentation en confetti. On le voit hein, sur le visage chez les patients qui ont utilisé, les patientes qui ont utilisé trop souvent sur leur mélasma des préparations à base d'hydroquinone concentrée. On voit parfois ces dépigmentations en confetti qui ne sont pas du tout esthétiques. Voilà, donc pour l'hydroquinone, pour les corticoïdes forts de classe 4 sont des corticoïdes qui sont potentiellement dangereux. Le clobétasole, pour le citer, a une action utilisée quotidiennement, utilisée de façon très, très régulière par les patients en automédication. C'est dangereux, hein, qui peut conduire effectivement à des problèmes type insuffisance rénale, à abîmer la peau avec une atrophie cutanée intense. Il y a des complications des corticoïdes locaux quand ils sont utilisés au long cours et en très grande quantité.
Des vrais risques que vous
Alors,
avez
sans parler des dérivés mercuriels, effectivement, qui sont utilisés, il y a des vrais risques.
Il y a aussi des risques d'infection.
Des risques d'infection avec les corticoïdes, oui.
Mauvaise cicatrisation aussi.
Mauvaise cicatrisation du fait de l'atrophie cutanée, de l'atrophie des annexes, etc. Et effectivement, une action anti-inflammatoire qui diminue les défenses immunitaires également.
Donc, rappelez que si la personne souhaite vraiment effectuer un blanchiment anal, il faut toujours, toujours faire attention et ne pas s'engager seul à la maison dans des conditions d'hygiène pas forcément très bonnes et avec des produits dont on ne connaît pas les molécules.
Tout à fait. C'est un acte qui n'est pas évident parce que sur les zones découvertes, on se casse souvent la figure dans le sens où si on fait un traitement un peu trop fort, ça revient, etc. Et au niveau de la zone intime, on a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent produire de l'inflammation, ne serait-ce que les micro-traumatismes répétés, les vêtements portés serrés, vous savez, la mode des leggings, etc., tout ça. Les sous-vêtements dans des matières un petit peu irritantes, etc. Les lessives qui ne sont pas forcément bien tolérées, les produits de toilette divers et variés, les parfums et tout ça. Et tout ça, sur des zones quand même souvent sujettes à tout ce genre de choses, on risque effectivement de se casser la figure et d'avoir une repigmentation. De toute façon, quand c'est ethnique, on a forcément une repigmentation. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est un éclaircissement, mais il faut que la patiente ou le patient ait un traitement à faire à domicile quasiment en continu pour éviter la repigmentation. Donc, d'un côté, il y a les produits toxiques qui vont dépigmenter, mais avec des effets secondaires, et de l'autre, vous avez des produits régulateurs de la pigmentation, mais il faut les utiliser tout le temps. En gros, c'est un peu ça.
Merci à Isabelle Gallet pour ses explications. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, les applis d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.